Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard sur la France, à l'occasion de la parution de deux ouvrages dont les auteurs sont nos invités. Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et essayiste, auteur de « La France dans le bouleversement du monde » aux éditions L'Observatoire. Bonjour Michel Duclos.
Bonjour.
Et Michel Vivorca, sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Son dernier livre, Métamorphose ou déchéance, Où va la France, aux éditions Rue de Seine. Bonjour Michel Vivorca.
Bonjour.
Vos ouvrages sont des sonnettes d'alarme sur l'état de la France et le risque de voir notre pays perdre pied dans les mutations rapides qui affectent les équilibres internationaux. La crise du coronavirus est venue mettre beaucoup de choses par terre ou peut-être tout simplement révéler ce que nous ne voulions pas voir. Et de cette crise, nous sommes loin d'être sortis. Nous allons partir du constat que vous faites, Michel Duclos, celui du recul du poids de la France dans le monde. Nous sommes moins de 1% de la population mondiale. Notre territoire représente 0,5% des terres émergées, avec cependant la deuxième zone économique exclusive. Le produit intérieur brut de la France classe celle-ci au 6e ou 7e rang selon les années, mais avec un poids dans les équilibres mondiaux qui s'amenuise d'année en année. Le produit intérieur brut chinois est passé de 1,6% du PIB mondial dans les années 1990 à 16% aujourd'hui. Le PIB français de 5,6% à 3%. Si l'on raisonne en termes de PIB à parité de pouvoir d'achat, nous n'occupons plus que la 10e place derrière la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, l'Allemagne, la Russie, l'Indonésie, le Brésil et le Royaume-Uni. Et si nous poursuivons sur cette trajectoire, la France pourrait dégringoler entre le 16e et le 20e rang vers 2030. 2030, c'est dans 8 ans. Et à cette échéance, l'Allemagne serait le seul pays européen à rester dans la botte des 10 économies principales mondiales. Votre réaction à l'un et à l'autre, Michel Duclos ?
Alors, j'ai utilisé ces chiffres parce que je crois que sur ces choses-là, il faut être factuel. Mmh. Il ne faut pas se contenter de sentiments. Mais en même temps, les chiffres ne disent pas tout. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que cette impression que nous avons d'un recul tient beaucoup, non pas à notre régression, mais au progrès des autres. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication dans le monde d'aujourd'hui de pays qui se rapprochent d'un niveau de développement comparable au nôtre. Et donc, c'est la multiplication des puissances émergentes qui donne l'impression que nous sommes moins prospères qu'auparavant. De même, sur le plan géopolitique, il y a un retour des puissances qu'on appelle carnivores, donc notamment la Russie, l'Iran, la Chine, même qui appartient aux deux catégories, qui font que ça devient plus difficile parce que, tout simplement, c'est un monde plus concurrentiel, c'est un monde plus dangereux où, vous savez, il y a cette expression qu'il faut sans doute éviter d'utiliser parce que ça heurte les sentiments de nos concitoyens. La question, est-ce qu'on est une puissance moyenne ou pas, comme l'avait dit le président Giscard d'Estaing. En tous les cas, si on accepte cette notion, ce qui est important de comprendre, c'est que à l'époque de Giscard, on était une puissance moyenne parmi 4 ou 5 autres. Aujourd'hui, c'est parmi 20 ou 30 autres. Mmh. C'est cela la question. Donc, il ne faut pas verser dans le déclinisme, dire qu'on est fichu. Justement, le mot recul est peut-être excessif. Il faut être lucide en même temps sur le poids réel et bien comprendre la question du poids relatif de la France dans le monde.
Michel Vivorca.
Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je pense que les problèmes peuvent être lus, comment dirais-je, dans la place vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'extérieur, et qu'on peut essayer aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire d'une certaine façon dans mon livre, de se centrer sur la propre société française pour voir si son dynamisme ou son manque de dynamisme n'explique pas ce, non pas déclin, mais enfin disons ces difficultés actuelles. Et donc, ce que je constate, moi j'ai voulu étudier la longue durée, enfin la relative longue durée. Ce que je constate, c'est que du côté de l'État, donc je regarde les choses d'abord par le haut, du côté de l'État, dans l'ensemble, l'État qu'on pourrait appeler politique a perdu une bonne partie de son dynamisme, de sa capacité à entraîner la société. Et l'État qu'on peut appeler administratif, moi je l'appelle permanent, cet État-là s'est alourdi, s'est bureaucratisé, a perdu aussi une capacité d'entraîner, si vous voulez, un plus grand dynamisme. et que l'articulation des deux ne se fait pas très très bien. Je ne parlerai pas d'état profond, je pense que ça ne correspond pas du tout au problème actuel, mais un état un peu gazeux par moment, un peu fangeux à d'autres moments.
Fangeux,
c'est-à-dire des choses pas très brillantes, des comportements soit bureaucratiques, soit irresponsables, des administrations qui se combattent ou qui au contraire s'ignorent complètement. Enfin, on pourrait montrer, c'est ce que je fais dans mon livre, un certain nombre de problèmes de ce type. Ça, c'est par le haut. Le dynamisme est moins évident. Et puis, j'ai regardé les choses aussi, je suis sociologue, donc j'aime bien regarder les choses par le bas, par la façon dont la société civile contribue à des logiques d'avancée, de projection vers l'avenir. Et là, j'ai étudié l'ensemble des luttes sociales et culturelles qui m'ont semblé les plus importantes depuis 68. Alors, je vais exagérer un tout petit peu, mais entre Cohn-Bendit et les Gilets jaunes, il y a quand même un univers de changement, de transformation et au bout du compte, de perte de capacité de pousser la société à se projeter vers l'avenir. Et donc, qu'on regarde les choses par le haut ou qu'on regarde les choses par le bas et qu'on regarde aussi comment les deux se rencontrent, la société civile et l'État, on a le sentiment que nous avons moins de capacité à nous projeter avec bonheur vers le futur que nous en avons eu dans le passé. Et on en arrive à ces images qui ne sont pas des images de déclin, mais qui sont des images de perte d'influence, de perte de position. Vous avez parlé en termes, j'ai envie de dire, plutôt économiques, Michel Duclos, mais on pourrait ajouter tout ce qui est influence intellectuelle, culturelle, nos valeurs, nos conceptions de l'universel. Tout ça aussi, nous avons plus de peine qu'avant à le mettre en avant.
Alors Michel Duclos, sur la perte d'influence de la France ?
C'est un sujet, évidemment, pour un homme de ma génération et de mon métier, qui est un sujet très difficile. Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, ce n'est pas uniquement les chiffres qui comptent, mais c'est aussi le dynamisme de notre modèle. Et c'est vrai que l'impression que nous projetons à l'extérieur, c'est que ce modèle n'a plus le dynamisme d'autrefois. Par exemple, l'intégration de la jeunesse et des étrangers est devenue beaucoup plus difficile. Le chômage qui se maintient à un niveau élevé, les tensions politiques incessantes, tout cela a fait que l'image de la France souffre de ces difficultés en quelque sorte existentielles. Sur l'influence intellectuelle, c'est difficile à mesurer parce que il y a quelqu'un qui nous connaît bien, qui s'appelle Joseph Devec, qui écrit un livre. C'est un auteur suisse qui vit à la fois en Allemagne et en France, qui écrit un livre sur le président Macron tout à fait remarquable. Et lui, il fait le constat inverse. Il dit, si vous comparez à l'Allemagne, il n'y a plus actuellement d'intellectuels ou d'écrivains allemands connus dans le monde. Et il cite une dizaine d'auteurs français qui sont traduits et qui continuent à faire autorité dans les milieux intellectuels anglo-saxons ou autres. Le principal philosophe qui fait autoriser sur les questions écologiques, c'est Latour. C'est un philosophe français. Et il cite comme ça un certain nombre d'autres auteurs. Donc, méfions-nous des clichés en ce domaine, mais quand même, il y a dans mon livre la mention de ce que j'appelle la tempête parfaite, donc autour de l'affaire Paty, quelque chose
qui... Samuel Paty, donc cet enseignant français décapité.
Et donc les prises de position qui en France sont quand même relativement consensuelles sur la défense de la laïcité ont provoqué à la fois des manifestations dans un grand nombre de pays arabo-musulmans, certes orchestrées et manipulées, mais malgré tout correspondant à un vrai sentiment de rejet de ce que nous sommes fondamentalement, et dans le même temps les critiques des éditorialistes du New York Times. Et donc ça prouve bien que dans le monde global d'aujourd'hui, l'être français, l'essence de notre civilisation ne passe plus aussi facilement.
Michel Bouvoca, vous souhaitez réagir
Ah ben je compte avancer un peu, parce que je trouve que c'est très, très intéressant comme discussion. D'abord Bruno Latour. Il se trouve que j'ai remis à Thierry Mandon, alors secrétaire d'État à la recherche et à l'enseignement supérieur, il y a 4-5 ans, un rapport sur la place des sciences sociales françaises à l'international. Le seul sociologue, donc c'est les sciences sociales simplement, mais le seul sociologue français qui apparaissait comme effectivement connu, cité, etc., en activité, je ne parle pas des très anciens, c'était Bruno Latour. Nous avions disparu, alors qu'il y a 40 ou 50 ans, les sciences sociales françaises étaient le centre du monde, premièrement. Deuxièmement, cette influence française, elle n'est pas simplement celle d'esprit éclairé. Les Américains de l'alt-right s'intéressent beaucoup à Renaud Camus et à ses théories du grand remplacement. Donc notre influence, elle n'est pas forcément brillante, de mon point de vue non plus. Et puis troisièmement, je pense à mes grands-parents. Ils sont venus en France parce que c'était le pays de Victor Hugo. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui beaucoup de migrants qui vous disent « Je veux venir en France parce que c'est le pays de... »
Michel Houellebecq.
De Michel Houellebecq ou de Bruno Latour. Non, évidemment. Donc, si vous voulez, il y a quand même, je pense, là aussi, bien sûr, nous avons des très bons auteurs, nous avons une vie intellectuelle, effectivement, qui garde encore une certaine présence internationale, mais je trouve qu'elle s'est quand même atténuée par rapport à ce qu'elle a pu être il y a 50 ou 100 ans.
Et de fait, Michel Duclos, vous le dites, hein, le modèle français est de moins en moins attirant. La question de l'image, vous parliez de l'affaire Paty, ça a généré à l'étranger, à l'extérieur, vous l'avez dit, des manifestations, mais ça a entaché l'image dans la France, dans un certain nombre de pays.
Oui, alors il ne faut pas renoncer à ce que nous sommes, naturellement, hein, mais on doit réfléchir quand même à la façon dont on médiatise, on projette ce que nous sommes. Dans l'affaire Paty, par exemple, soyons concrets, le président de la République a été contraint d'aller s'exprimer devant Al Jazeera. Je crois qu'il a trouvé les mots qu'il fallait, c'était très bien. Il a d'ailleurs reçu le soutien d'un certain nombre de gouvernements des pays concernés. Mais dans les heures qui ont suivi, il y a eu une campagne sur les réseaux sociaux dans ces pays qui démantelaient complètement les arguments du président. Et là, on n'était pas présent, on était sans voix, si vous voulez. Donc, il faut que nous réfléchissions à notre manière de projeter notre message dans le monde compte tenu de ce que sont maintenant les moyens de communication actuels. C'est plus un discours par-ci, par-là qui suffit.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, Michel Vivorca, dans votre ouvrage, vous posez beaucoup de questions. Celle de savoir ce que peut faire la France ou pas. Politiquement, est-elle capable, la France, et jusqu'à quel point, de faire face à de grands défis sociaux, économiques, culturels, religieux ou autres? Et vous posez cette question, quel est-il cet État qui n'était pas préparé à affronter un risque majeur, la pandémie, qu'il n'avait pas su ou voulu anticiper, contrairement à ce qui a pu exister dans d'autres pays, en Asie essentiellement, que des expériences antérieures, le SRAS notamment, avaient pu mieux sensibiliser ou mobiliser, aucune organisation médicale et territoriale plus efficace et mieux dotée avait mis en position d'agir efficacement. La France est en état de capacité aujourd'hui, alors une question pour tous les deux, à affronter les grands défis et comment voyez-vous notre pays sortir de la pandémie?
Michel Vivorca. D'abord, on ne sort à l'impact de la pandémie que dans 50 ou 100 ans. C'est les historiens de demain qui nous diront ça a eu un impact, ça a été géré bien, ça a été mal géré, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt pour avoir un jugement très, très assuré. Donc, c'est ma première remarque. Deuxièmement, et je reprends l'exemple de Paty, du drame, de ce meurtre, parce que c'est exactement le genre de question qui justifie que vous nous ayez invités ensemble, Michel Duclos et moi-même. C'est à la fois un problème de géopolitique, un problème international, de relations avec des pays musulmans en particulier, ou des pays où l'islam est présent, d'un côté. Et c'est en même temps un problème interne à notre société, car il y a en France des musulmans, il y a un islam, l'islamisme a prospéré aussi en France, et donc il faut penser en même temps le dedans et le dehors. Donc c'est très bien de nous mettre comme ça en face à face. Alors, moi je regarde les choses plutôt du dedans, c'est mon travail. J'ai le sentiment que le modèle français dont on vient de dire qu'il avait des difficultés, surtout en matière économique et peut-être intellectuelle, c'est un modèle français qui a eu son apogée dans les années dites des Trente Glorieuses, dans les années 50, 60, encore au début des années 70, et qui se déstructure, qui est mis en cause de tous les côtés, et nous n'en finissons pas d'essayer d'en sortir. Je crois que c'est ça le problème. Or, parmi les difficultés inédites, il y en a beaucoup, donc je ne vais pas en faire une liste, mais parmi les difficultés inédites, il y a eu la transformation d'une immigration qui au début était une immigration de travail, dans les années 50, 60, qui est devenue, pour parler comme Stéphane Hessel, une immigration de peuplement, et dont une bonne partie se retrouve dans la religion musulmane. Et donc là, on commence à rentrer dans des difficultés parce que notre pays n'était pas prêt à faire toute sa place à cette religion. Et cette religion elle-même a pu aussi avoir les dérives islamistes dont il est question avec le meurtre de Paty. Et donc voilà le genre de défis. Ce sont des défis. Est-ce que nous saurons gérer correctement cette question, à la fois en interne et en externe? C'est difficile. Les débats sont très très vifs. On ne mettait pas en cause les valeurs républicaines dans les années 60 et même 70. Très très peu, quelques mouvements régionalistes, mais c'était pas la densité des inquiétudes que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous appelons laïcité? Qu'est-ce que nous appelons valeurs républicaines? Qu'est-ce que nous appelons valeurs universelles, universalistes? Tout ça est en débat, tout ça est tendu, tout ça pose des grandes questions et ce sont des défis. Et notre société, en ce moment, se tend beaucoup sur ces enjeux.
Alors, les enjeux d'immigration, on s'y installe quelque temps, Michel Duclos, si vous voulez bien, puisque Michel Vivorca parle de ce passage d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. On va parler de la place de la France sur le plan démographique. Finalement, le recul de la France, il n'est pas... Enfin, en tout cas, ça n'a rien à voir avec sa démographie. On a vu des pays modestes en termes de démographie être capables de faire figure de superpuissance technologique et de réagir plutôt assez bien à la pandémie. Je pense à la Corée du Sud et à Taïwan.
Alors là, il y a un mot qu'il faut introduire, c'est le mot « Europe ». C'est-à-dire que dans ce que vous venez d'indiquer, c'est le constat que je fais dans mon livre, mais j'ajoute, un pays comme Taïwan ou même Israël, ce sont des pays qui réussissent en s'adaptant aux règles fixées par d'autres. Nous, notre ADN de grande puissance, si je puis dire, c'est quand même d'essayer de contribuer à fixer les règles. Et cela... Si on veut continuer à être fidèle à cette vocation, ça passe désormais par l'Europe. C'est-à-dire que c'est uniquement par la puissance européenne qu'on peut continuer à faire partie de ceux qui édictent certaines, au moins, des règles du monde. Au moins, les normes en matière commerciale ou en matière, d'ailleurs, de culture, de civilisation. Et c'est pourquoi... Une des réponses au malaise du modèle français, c'est quand même la sublimation par l'Europe. C'est ce qu'ont cherché tous les dirigeants de la Ve République depuis le général de Gaulle, y compris le général de Gaulle.
Et alors cette volonté, je reste là-dessus, Michel Duclos, de la France de fixer les règles, ça agace beaucoup nos partenaires européens.
Ça agace les partenaires européens quand on veut le faire seul, c'est-à-dire quand on fait cavalier seul. Mais là, ma longue carrière, j'ai passé 4 ans à Bruxelles et dans les différents postes que j'ai occupés, j'ai toujours travaillé évidemment beaucoup en européen. Mon expérience, c'est qu'on passe pour arrogant, insupportable, mais que malgré tout, on attend beaucoup de la France chez les Européens. Et il faut peut-être qu'on trouve un style enfin plus moderne de communication avec nos partenaires et qu'on renonce à cette habitude vraiment contre-productive du cavalier seul. Mais il ne faut pas pour autant renoncer à notre capacité de fournir une inspiration pour que l'Europe, entre la Chine, les États-Unis et d'autres, fasse partie de ceux qui... contribue à définir les règles du jeu.
Mais tout de même, pardonnez-moi, et je vous repasserai la parole, bien sûr, Michel Vivorca, mais Michel Duclos, sur la place de la France en Europe, on a bien vu avec ce recul, cette lecture un peu décliniste, finalement, de la France aussi, que la France se situe aujourd'hui au niveau des pays d'Europe du Sud, Espagne, Portugal, Italie. Elle a du mal, la France, à parler davantage avec ces pays-là, privilégiant le couple franco-allemand, parce que pour la France, alors il y avait le Royaume-Uni, mais avec le Brexit, il a quitté l'Union européenne en quelques secondes et on reviendra sur...
Non, on vient de signer quand même l'accord du Quirinal et je crois que le vrai problème, soyons très simples, c'est quand même le décrochage économique avec l'Allemagne. C'est ça qui nous handicape. Je crois que les relations avec nos autres partenaires européens, c'est une question de modalité, mais c'est soluble.
On vous retrouve, Michel Vivorca et Michel Duclos, après le journal. À tout de suite.
Orient. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Regard sur la France à l'occasion de la parution de deux ouvrages dont les auteurs sont nos invités. Nous retrouvons Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et essayiste, auteur de La France dans le bouleversement du monde aux éditions L'Observatoire, et Michel Vivorca, sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur de Métamorphose ou Déchéance, Où va la France ? Paru aux éditions Rue de Seine. Michel Vivorca, on revient quelques instants sur le constat que vous faites de la capacité de la France à réagir dès les premières semaines, les premiers mois à la crise sanitaire. Vous dites on ne comprend rien à la pénurie de masques des trois premiers mois de la crise sanitaire en 2020 si on n'envisage pas la crise financière de 2008 et son impact sur les conceptions générales de l'action publique en France comme ailleurs. Sont en jeu des obsessions budgétaires, la priorité donnée à des critères gestionnaires d'austérité, effaçant celle accordée précédemment à des impératifs de santé publique. Je poursuis le recul de l'État, le recours croissant aux principes de précaution, refus d'investir dans l'hôpital et la santé publique pour faire des économies en vertu d'une surévaluation des progrès dans la réduction coût des soins. La France aussi a perdu, on parlait beaucoup du niveau d'éducation en France, du niveau de la sécurité sociale, etc. Là aussi, elle est venue, la pandémie, révéler quelque chose qu'on ne voulait pas voir, Michel Vivorca.
Alors, je pense que les Français, en tout cas, réfléchissent autrement maintenant et après toute cette période que nous venons de vivre que la façon dont ils réfléchissaient auparavant, ça c'est très clair. On a envie de dire plusieurs choses. On a évoqué tout à l'heure des chiffres avec Michel Duclos. On pourrait ajouter les résultats des enquêtes sur le niveau d'éducation en France, les fameuses études PISA, qui montrent que les Français étaient convaincus que leur école était la meilleure du monde, en gros. Et puis ils découvrent qu'elle est moyenne, je dirais pas mauvaise, mais moyenne, avec des hauts et même des bas, parfois impressionnants. Donc un peu partout se clarifie l'image que tout n'est pas si brillant que ça. Et oui, vous avez raison de rappeler 2008, mais j'ai évoqué ce moment, en réalité, pour indiquer qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos du pouvoir. Il a certainement été maladroit, surtout au début. Il y a eu des informations un peu mensongères, il y a eu de la légèreté dans ce qui était dit parfois, de l'ignorance aussi. Mais dans l'ensemble, les problèmes sont structurels. Les problèmes, à mon avis, sont plus épais. C'est ce que j'ai voulu indiquer, vous l'avez rappelé, en particulier tout ce qui touche aux critères de gestion budgétaire. Ça faisait déjà quelques dizaines d'années que c'était dans l'œuvre. Alors oui, je crois que c'est très très important de rappeler l'épaisseur historique des processus qui nous ont amenés à être moins bien préparés que d'autres au début. Mais j'ajoute aussi, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, que la politique actuelle en matière sanitaire est plutôt mieux que celle qu'on observe ailleurs. Et d'ailleurs, l'Allemagne, qu'on présentait aussi comme un modèle au début, aujourd'hui a des difficultés qui sont, me semble-t-il, plus graves encore qu'en France.
Michel Duclos, on va parler de l'actualité récente pour évoquer cette affaire des sous-marins, le contrat avorté entre l'Australie et la France avec cet accord passé avec les Américains. Plusieurs questions, et ça rejoint aussi la question de la pandémie. C'est peut-être, entre autres choses, le rôle de nos ambassades, aussi bien à Canberra pour l'affaire des sous-marins que la Corée du Sud ou Taïwan pour alerter sur le danger de la pandémie au moment où elle a commencé à émerger en Asie. Elle est, la France, un pays isolé aujourd'hui ?
Alors j'utilise l'expression, vous savez, de la solitude stratégique de la France, due à des questions, des facteurs structurels, tous ceux qu'on vient d'évoquer, le fait que les alliances aujourd'hui sont moins fiables qu'auparavant. J'ai connu une époque où il y avait une sorte d'intimité stratégique dans ce qu'on appelle le P3, donc le Royaume-Uni, la France et les États-Unis. Et même au moment de l'affaire irakienne, j'étais à New York. On était très fâchés avec les Américains et les Anglais, mais malgré tout, on continuait à se parler. Et donc, à cette aune-là, le fait qu'on n'ait pas été prévenu ni par les Américains ni par les Britanniques, ça prouve quand même qu'il y a quelque chose de cassé. Nous avons des difficultés avec la Turquie. Le fait que l'OTAN soit incapable d'encadrer les tensions avec la Turquie, ça prouve aussi que dans les alliances, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc il y a cette sorte de solitude stratégique dans laquelle nous nous trouvons. Si on regarde le Conseil de sécurité, nous sommes très, vous savez, fiers d'être membres permanents. Mais en même temps, le Conseil de sécurité ne règle à peu près plus aucune question, aucune crise en tous les cas. Parce qu'il y a la compétition géostratégique avec la Chine et la Russie. La Russie joue un rôle d'obstructeur à peu près systématique, mais aussi parce qu'on ne peut plus vraiment s'appuyer sur les États-Unis dans les crises africaines ou au Proche-Orient, et que maintenant, on a perdu le Royaume-Uni. Donc voilà la solitude stratégique. Sur la pandémie, là je rejoins ce qui vient d'être dit par Michel Vivirca, j'avais écrit au mois de juin une note sur le virus clarificateur l'année dernière, où je parlais, comme beaucoup de gens, beaucoup de hauts fonctionnaires de ma génération, de la faillite du système français, c'est-à-dire le système, aussi bien l'État que les grandes entreprises, etc. Il faut reconnaître qu'un an plus tard, le bilan est quand même plus nuancé, puisque finalement, on s'en tire plutôt pas mal.
Pour l'instant.
Oui, pour l'instant, mais on ne peut pas dire que c'est aussi négatif qu'on pouvait avoir l'impression que ce le serait il y a un an ou plus. Alors, sur les ambassades, ce qui est clair, c'est que, et là, je m'élève peut-être à un niveau qui n'est pas le mien, mais imaginons pour un instant que je suis presque sociologue ou presque historien. Hein. Il me semble qu'à partir de la chute du mur de Berlin, les élites françaises, toutes parties confondues, ont eu l'illusion qu'on pouvait s'adapter à la globalisation en se passant des diplomates, que ça maintenant, ça se déroulait ailleurs. Et là, ce dont on est en train de s'apercevoir, c'est qu'au contraire, on a besoin plus que jamais de professionnels, de l'observation, de la négociation, de la discussion, du contact avec les étrangers. Et malheureusement, ça ne semble pas être une prise de conscience qui va jusqu'à nos autorités politiques, puisque les réformes qui sont faites vont accentuer la déprofessionnalisation, en tout cas risquent d'accentuer la dégradation du service diplomatique.
Michel Vivorca.
Je suis très heureux d'entendre ça, parce que ça correspond, dans ce qui nous concerne vers l'extérieur, à des problèmes qu'on rencontre aussi à l'intérieur. Un, la méfiance. La méfiance, elle est aussi très forte en France. Notre pays est un des pays où la méfiance vis-à-vis des élites est la plus haute à l'échelle de l'Europe et de la planète. Une méfiance qui est aussi une défiance. Et donc ce qu'on vit en interne a son pendant, si je peux dire, en externe. Le deuxième point, j'insiste beaucoup dans mon travail, sur la crise de la démocratie, sur les difficultés de la démocratie. Et là, je pense qu'il faut pointer le pouvoir politique actuel, la tendance très forte depuis 3-4 ans maintenant, à se débarrasser des médiations, à affaiblir les corps intermédiaires. Et on le voit dans toutes sortes de domaines, j'en cite quelques-uns. C'est pour ça que je suis très intéressé de voir qu'il en est ainsi en matière diplomatique. Mais enfin, la façon dont le pouvoir a traité la CFDT, c'est indigne. Et ça continue. Je lis encore récemment des déclarations d'un ministre, enfin, très méprisantes finalement pour la CFDT. La façon dont le pouvoir supprime des institutions. Je pourrais en parler de mon propre cas, mais je le laisserai de côté. Mais citons l'Observatoire de la laïcité. Il fallait plus que ça existe. La façon dont l'Élysée se comporte avec ses ministres, souvent déjugés du jour au lendemain. La façon aussi dont fonctionnent les relations avec les grandes associations. On dit les grandes associations d'hier sont en difficulté, la Ligue de l'enseignement, etc. Bien sûr, mais le pouvoir ne fait rien pour les soutenir, pour les encourager. Bref, le refus des corps intermédiaires, j'allais dire concret, et si vous permettez, Michel Duclos, j'ajouterai le refus des corps intermédiaires intellectuels. C'est-à-dire, nous voyons qu'une partie non négligeable du pouvoir durcit ses positions idéologiques sur certains dossiers et pousse ceux qui ne pensent pas comme lui du côté des pires excès. Qu'autrement dit, il ne faut qu'il n'y ait personne entre ceux qui pensent république dure et pure, laïcité intransigeante, etc., et l'islamo-gauchisme. Et donc des gens comme moi, qui suis quelqu'un d'assez nuancé, j'ai envie de dire politiquement plutôt centre-gauche, pour le dire vite, eh bien on me pousse à m'extrémiser, à me cornériser, si je peux dire, je ne suis évidemment pas le seul. Et donc ça fait partie de la suppression des médiations, c'est aussi une tendance à durcir la vie intellectuelle, de sorte qu'au bout du compte, il n'y a plus qu'à choisir. Michel Duclos, êtes-vous islamo-gauchiste ou islamophobe ? Ni l'un ni l'autre, évidemment.
Alors vous le dites hein, précisément, Michel Duclos, que la Ve République est en train de se dévorer elle-même. Tous les pouvoirs sont désormais concentrés entre les mains du président de la République. Il dirige tout dans une sorte de désert politique et institutionnel préjudiciable à la démocratie comme à l'efficacité de l'action publique. Et sans doute, vous vous retrouvez bien, Michel Vivorca et Michel Duclos. En examinant la situation française, Michel Vivorca, dans votre ouvrage « Métamorphose ou déchéance, où va la France ?», vous observez l'expérience de la Hongrie, parce que l'autoritarisme, dites-vous, progressant en France, pourrait devenir l'horizon de la situation de notre pays. Michel Duclos ?
Je crois que Macron est un libéral, j'explique pourquoi dans mon livre. Je crois qu'en France, les forces attachées aux libertés sont quand même très fortes. Mais c'est vrai qu'il y a un danger. J'ai commencé ma vie d'adulte, si je puis dire, auprès de Raymond Aron, de Pierre Hassner, qui s'inquiétait de l'avenir des institutions démocratiques, des institutions libérales, à une époque où elles n'étaient pas assiégées comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont assiégées et je crois qu'il faut maintenant se battre pour les défendre.
Alors, puisque vous parliez de la défiance, Michel Vivorca, tout à l'heure, et c'est un chiffre que je sors de votre livre, le malaise français, la France se situe en queue de peloton au 58e rang sur l'échelle de la confiance. Vous parlez d'une fabrique de la défiance, et vous dites que la défiance exerce des effets délétères ou pernicieux sur la démocratie. Ça me permet d'aborder la question du sommet pour la démocratie qui se tiendra les 9 et 10 décembre prochains à l'initiative du président Biden qui vise à galvaniser 3 thèmes majeurs, la lutte contre l'autoritarisme, la lutte contre la corruption et le respect des droits humains. Quel est votre commentaire sur ce sommet, Michel Vivorca ?
Bon, je pense que c'est une opération plus géopolitique et plus tournée vers l'extérieur que tournée vers l'intérieur. Donc c'est plutôt à Michel Duclos d'avoir une appréciation sur cette opération. La démocratie, c'est quand même avant tout une question intérieure à un pays. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on fait pour avoir à la fois une unité du corps social, on peut l'appeler la nation, on peut l'appeler l'État, on peut l'appeler la République, ou tout ça en même temps d'ailleurs, comment est-ce qu'on a en même temps l'unité et la capacité de traiter autrement que par la violence ou par le chaos, les différences, les conflits, les oppositions, tout ce qui attend un traitement que seule, à mon avis, la démocratie peut apporter. Je ne pense pas que l'opération Biden pose ce genre de questions. Ce n'est pas une réflexion sur la crise de la représentation politique. Ce n'est pas une réflexion sur la participation. Donc je crois vraiment que les enjeux, c'est nous allons être au cœur d'une action qui va, en principe, dénoncer les régimes autoritaires, et je pense d'abord la Chine. Mais je pense que c'est Michel Duclos qui peut nous en parler plus sérieusement.
Alors Michel Duclos.
Oui, justement, il me semble que Biden a évité cet écueil. En tous les cas, dans la préparation du sommet, ses équipes ont indiqué qu'elles étaient conscientes. Et on est passé d'une version qui était le sommet des démocraties, avec effectivement une attitude de confrontation avec le modèle chinois et russe, à un sommet pour la démocratie qui s'adresse d'abord à nos propres failles et qui cherche à remédier à nos propres défauts. Alors les deux, évidemment, se rejoignent, mais malgré tout, je pense qu'il y a un progrès et on ne peut pas être contre. Il faut y apporter notre contribution en montrant bien, vous savez, mon livre précédent, c'est un livre que j'avais dirigé qui s'appelle « Le monde des nouveaux autoritaires ». Et je pensais qu'on ne peut pas se rallier à une formule bloc contre bloc parce que ça serait contre-productif. Et j'espère que le sommet de Biden évitera ce défaut.
On en vient tout de même à deux mondes qui s'opposent. Michel Duclos, est-ce qu'il faut y voir un retour en arrière ?
Non, parce que c'est deux mondes qui s'opposent, mais avec beaucoup de zones dans le monde qui ne sont pas dans la dialectique, dans la confrontation, avec même dans les systèmes, dans un très grand nombre de systèmes autoritaires, des sociétés civiles qui restent accessibles. Alors maintenant, d'ailleurs, Poutine est en train d'essayer de fermer ça. La Chine, c'est évidemment impossible, mais des pays comme la Turquie, l'Égypte, d'autres, il y a quand même un espace public qui reste accessible. Donc il faut pas raisonner en termes de noir et blanc, je crois.
Alors, pour abonder dans le sens de des chiffres concernant la démocratie, il me semble que c'est vous, Michel Vivorca, qui donnez cette information avec l'hebdomadaire d'Economist qui a classé la France parmi les démocraties défaillantes dans son classement annuel Global Democracy Index de février 2021. On va se tourner vers l'avenir. Métamorphose ou déchéance, où va la France, Michel Vivorca?
J'ai envie de dire, le pire n'est pas certain, mais quand même, la démocratie n'est pas triomphante aujourd'hui en France. Elle est inquiète. Nous voyons le système politique s'affaiblir complètement dans ce qui est sa vitalité, la représentation d'une gauche, d'une droite, au profit d'un hypercentre tout puissant, l'Élysée, et des extrêmes. Et nous voyons surtout l'État fonctionner de manière verticale et de haut en bas. Tout vient de l'Élysée pour aller directement vers le, entre guillemets, le peuple, tandis que les contestations n'arrivent pas à se construire autrement que de manière horizontale. Les gilets jaunes, les anti-vax, etc. Comment voulez-vous que s'articule la conduite des affaires au sommet et les pressions pour que les choses se transforment par le bas, si les uns fonctionnent de façon horizontale, sans vouloir négocier, sans pouvoir discuter, sans pouvoir se doter de leaders, de programmes, etc., et que le pouvoir, lui, s'exerce de façon verticale. Donc ça me rend inquiet. Je pense qu'il y a beaucoup de poudre aux yeux dans la politique actuelle quand il est question de la démocratie, que l'idée de démocratie participative, ça pourrait être une très belle formule, elle est galvaudée. Je le dis très, très simplement, dans mon livre, je suis plus clair. On nous promet un plan. On a un haut commissaire au plan, qui est une plaisanterie. Le chef de l'État annonce, par exemple, un grand programme nucléaire de production d'électricité pour 2030. Où sont les travaux d'un plan? Où sont les réflexions collectives? Etc. Et donc, nous sommes dans une situation de grande incertitude, de grande fragilité. Et donc, j'ai envie de dire, en ce moment, la France suit des actualités électorales, mais d'une certaine façon, nous reprenons notre souffle. Nous savons très bien que la suite, et là je suis d'accord avec Michel Duclos, la suite devra être européenne, mais que ça n'est pas évident.
Alors, Michel Duclos, cette verticalité du pouvoir, elle se retrouve, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, aussi bien en termes de diplomatie, avec le rôle du Quai d'Orsay, particulièrement à Mondry, cellule diplomatique de l'Élysée qui a pris l'ascendant sur beaucoup de choses. Et vous le dites aussi, c'est là où vous êtes intéressant, parce que vous complétez parfaitement dans votre ouvrage, Michel Duclos, dont je rappelle le titre, « La France dans le bouleversement du monde », nécessité de surmonter nos faiblesses intérieures si nous voulons élargir notre compas à l'échelle du monde. Quelles sont les priorités en termes de choix stratégiques pour la France, Michel Duclos?
Alors, celle que je suggère, c'est d'abord de vraiment prendre très au sérieux la nécessité d'avoir un consensus européen. Le président Macron a raison, et je crois d'ailleurs que, en réalité, beaucoup de Français le soutiendront, sur l'idée qu'il faut une Europe plus forte. Et pour ça, il faut une plus grande unité européenne. Mais il ne faut pas que, du même coup, nous comportions systématiquement par le cavalier seul. Et il faut que nous soyons capables de renoncer à certaines de nos priorités, s'il le faut, pour obtenir l'unité européenne et donc une Europe plus forte dans le monde. Ensuite, je pense que nous avons un problème de positionnement stratégique sur la question de la Chine, des États-Unis ou du monde occidental. Il me semble que l'ambiguïté stratégique, l'idée d'une troisième voie, d'une alternative, etc., vis-à-vis de la Chine, risque d'être contre-productive. Alors, encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur, mais je dis qu'en termes de stratégie diplomatique, on a intérêt à être du côté de nos alliés sur ce grand défi, et même que c'est la seule façon d'obtenir une forme d'autonomie ou une signature européenne. C'est ça les deux grands choix stratégiques que nous avons à régler dans les prochaines années.
Vous souhaitez rajouter quelque chose, Michel?
Non, je pense que ça va avec le retour des médiations, le retour de la négociation, de la discussion, de la confiance, et en interne de plus de démocratie réelle.
Merci, Michel Vivorca. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Métamorphose ou déchéance, où va la France ?» paru aux éditions Rue de Seine. Et Michel Duclos, « La France dans le bouleversement du monde », paru aux éditions L'Observatoire. Géopolitique qui était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous reviendrons sur le monde 30 ans après la fin de l'URSS. À demain.